Radio-Télévision Suisse. RTBF.
Radio France.
Radio-Canada.
Et bonjour à tous, c'est la librairie francophone avec cette semaine du tango argentin, un débat sur les dangers de la révolution numérique et la douceur de la poésie. C'est un grand écrivain et poète belge qui est de retour. Guy Goffet célèbre la vie et rend hommage à des poètes disparus comme Apollinaire et Max Jacob. Nous ferons quelques petites expériences autour de la poésie en plateau dans quelques instants. Notre vie privée va disparaître, c'est le constat de Marc Duguin et de Christophe Labbé. Ils publient tous les deux un essai à charge contre l'industrie numérique. Et puis nous vous ferons danser, ou presque, le nouveau roman de l'écrivain franco-algérien Aklit Hadjer s'articule autour du tango entre sensualité et marginalité.
La librairie francophone. Emmanuel Kérad.
Et bien sûr, avec nous quatre libraires à travers la francophonie. Deux libraires représentent le yin et le yang dans cette émission. Bonjour Manon Trépanier.
Bonjour Emmanuel.
Vous représentez aussi le Canada, libraire à Longueuil dans la librairie à lire, fraîcheur, réceptivité, âme féminine. Vous êtes un peu le yin. Et puis Grégoire Courtois, en France, est un peu le yang. À Auxerre, l'énergie mâle, le feu. Bonjour Grégoire.
Oui, bah bonjour. Je sais pas quoi dire là.
Vous dites, vous faites là, passer pour un méchant là, je change.
Je suis sans voix.
Ça, c'est bien. Vous êtes libraire dans la librairie Oblique. Quel auteur allez-vous bousculer aujourd'hui? C'est la question que l'on se pose tous. En Suisse, on retrouve Dominique Bressou qui est à Boudry. Bonjour Dominique.
Bonjour Emmanuel.
Vous, vous dirigez tranquillement la librairie Une Petite Prose. Tout va bien pour vous?
Tout va bien.
Très bien.
Merci.
Et enfin, en Belgique, c'est Annick Dor qui est encore là, comme la semaine passée. Elle a dormi dans le studio. Bonjour Annick.
Oui, tout à fait. Oui, avec ces grèves, c'est bien de dormir là. Au moins, on est sûr d'y être.
C'est un peu chaotique en ce moment. Vous êtes libraire à la Hulpe dans la librairie de la Mazrine. Merci d'être là tous les quatre avec nous. Bonjour Aklit Hadjer.
Bonjour.
Vous venez de recevoir le prix Nice Baie des Anges qui vous est décerné ce week-end au Festival du Livre de Nice. Nice, où nous serons d'ailleurs pour enregistrer un entretien-reportage exceptionnel avec Anne Goscinny dans les rues de la ville, au bord de la mer, diffusion la semaine prochaine. On commence toujours cette émission par une histoire, une anecdote personnelle. Vous avez carte blanche à Aklit Hadjer, que voulez-vous transmettre?
En fait, une anecdote plus qu'une anecdote. Je vais vous raconter comment j'ai été publié la première fois.
Oui.
J'étais parti en Algérie, un court séjour, puis je me suis ennuyé, puis j'ai pris le ferry pour rentrer, et puis là j'ai pris des notes, enfin je regardais, c'était un peu « la navette va le bateau ». Arrivé à Paris, j'ai commencé à raconter, bidouiller un peu une histoire, et puis au bout de 30 pages, je me suis dit « mais ça se trouve, ça n'a strictement aucun intérêt ce que j'écris, ça se trouve que je perds mon temps ». Au Monde, c'était Bertrand Poirot-Delpech qui était le critique star quoi, de l'époque.
Ouais.
Je suis arrivé avec mes petites feuilles au Monde. Je vous raconte pas, je la fais courte, le périple et tout. J'arrive dans son bureau, il me regarde. Il me dit, mais que voulez-vous? Je lui dis, ben voilà, j'ai écrit ça, je voudrais savoir si c'est bien, si c'est pas bien, si c'est un intérêt. Et puis il me regarde toujours, c'est étonné. Et puis il me dit, mais qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse? Je suis pas éditeur.
Bah oui, oui.
Bah, je lui dis, mais je veux savoir simplement si c'est bien. Et puis je sais pas, il devait être de bonne humeur. Il me dit, ben posez ça là. Et puis je lui dis, mais je reviens quand? Il me dit, bah, je ne peux pas repasser dans 8 jours. Et je lui dis, je serai là dans 8 jours. Hein, vous inquiétez. 8 jours, je me pointe. Et il me rend mon paquet, toujours après avoir sinué dans les couloirs du Monde. Et je lui dis, mais c'est bien ou c'est pas bien? Il me dit, mais c'est pas une histoire. Et donc, j'ai terminé mon histoire. Et j'avais vu qu'il venait de publier un bouquin au Seuil. Et donc, quand tout a été terminé, que ça ressemblait vaguement à un manuscrit, je suis allé au Seuil, puis j'ai écrit sur l'enveloppe « De la part de Bertrand Poirot-Delpech ». Voilà, un mois après, on m'a rappelé. Oh, c'est formidable, Bertrand Poirot-Delpech, il nous envoie toujours de bons projets, de bons trucs. Voilà,
ah oui, vous avez un peu truandé.
Bah, c'était un peu de l'audace, encore de l'audace, c'est toujours d'audace.
Ouais, c'est l'audace. Hein. Bon. Aklit Hadjer est dans la librairie francophone cette semaine. Bonjour Guy Goffet.
Bonjour.
Vous êtes un poète et écrivain belge, prix Goncourt de la poésie en 2010. Vous êtes avec nous pour Petit Rien, pour Jours Absolus, paru chez Gallimard. Ces petits riens sont des petits moments de la vie, au bord de la mer par exemple, on y reviendra. Ou bien ce sont des références à de grands poètes. Il y a beaucoup d'hommages dans ce recueil, Max Jacob, je le disais, Apollinaire, Jean-Claude Pirotte aussi. Que vous ont-ils apporté ces hommes-là?
Ah,
Qu'est-ce qu'ils apportent? Ben, ils m'apportent un second souffle. Ce sont des gens qui m'ont accompagné et que je remercie à ma façon. J'ai besoin à chaque fois, dans chaque recueil, je crois, j'ai toujours remercié les gens avec qui je partage de nombreuses heures et qui me soutiennent dans la difficile, difficile chemin des poètes qui restent quand même des cow-boys un
des
peu seuls
banques.
Dans ce monde, dans ce monde qui est menacé par les tablettes et compagnie.
Ah, c'est bien, vous parlez du sujet d'après.
Oui, avec Marc Dugain, Christophe Labbé. Oui. Voilà.
Alors justement, dans ce monde numérique, à quoi peut servir la poésie aujourd'hui?
En tout cas, le monde numérique provoque un désastre en poésie. Tout le monde est poète, hein, naturellement. Tout le monde naît poète, tout le monde est poète. Il suffit d'écrire, de ne pas aller jusqu'au bout des lignes. Ça fait que plus personne n'en lit.
Ouais.
Si, on continue d'en lire. On continue, on reste sur le 19e siècle et la première moitié du 20e.
Alors comment fait-on pour créer une poésie, Guy Coffet? Vous, comment ça se passe? Dans quelles conditions vous devez être?
Mais il n'y a pas de recette pour écrire la poésie. Sinon, voilà, les gens qui croient qu'il y a une recette, justement, ça donne d'épouvantables choses. Comment fait-on? Il faut se mettre dans les dispositions d'écoute, d'attente, de silence, de réception. Pour entendre ce qui vous vient.
Le recueillement, alors.
Parce qu'on n'écrit pas ce qu'on sait. Les journalistes écrivent ce qu'ils savent. Ouais. Pas toujours, d'ailleurs.
Pas toujours, ouais.
Mais les poètes, les romanciers inventent. À partir d'eux-mêmes, ils inventent. Les poètes écrivent ce qu'ils ne savent pas, mais qui est en eux, profondément inscrit. Pour entendre ce qui est en soi, et pour le révéler, il faut se taire, il faut pouvoir être dans un monde de disponibilité totale. Ce qui n'arrive pas beaucoup dans le métier que je fais.
Ouais.
Et c'est pourquoi j'ai mis 7 ans à écrire ce livre.
Ouais, parce que vous travaillez dans l'édition. On va écouter le son du monde de la semaine. Guy Coffet, le principe, une musique habillée d'une voix. C'est une surprise pour vous. Cette voix lit un extrait de votre livre. Celui qui a accepté et qui va lire dans les conditions du direct, en studio, eh bien, c'est Marc Dugain, qui est juste à côté de vous, grand écrivain également. Il lit un extrait de vos poésies, un hommage à Max Jacob sur la musique polonaise de l'ensemble Mazowsze, car il est question aussi de la Pologne dans votre recueil.
C'est un petit homme grave, mais qui pleut en courant comme une averse d'été, quand la terre a soif et que l'âme penche du mauvais côté. On vient le voir de partout, il reçoit chacun comme un prince, mais demeure ce pauvre sous l'escalier qui s'éclaire avec son sourire et qui pleure. Les poèmes qu'il écrit sont si drôles qu'on le prend pour un bouffon, mais la déchirure de sa vie est dedans, cachée sous un double fond. Ceux qui savent lire l'entendent comme un coup de fusil. Il faut mourir à soi pour entrer vivant dans la poésie.
Marc Dugain, avec un extrait de Petit Rien pour Jours Absolus de Guy Coffet sur cette musique polonaise, car vous évoquez Gdansk à un moment dans le livre. Alors on a essayé d'illustrer, de nous mettre dans l'ambiance. Une réaction à cette lecture?
C'est admirable, il a une superbe voix.
Ah oui,
d'abord,
oui,
je vais maintenant l'engager pour me suivre dans les différents récitals que je fais. Et ben Marc, on va essayer de travailler ensemble.
Bien sûr.
La rencontre entre un écrivain et un poète, c'est beau.
Entre un romancier.
Voilà,
qui fait même du policier, de tout ça. Pour moi, c'est un autre monde. Et je le lis toujours avec. Si, c'est vrai qu'on se recrée, on se détend à lire des romanciers.
Oui.
Et on s'interroge souvent. Il m'est arrivé quand même de temps à autre de saisir quelque chose dans un livre et dans un roman et de partir sur un poème.
Mais alors vous aussi, voilà. Vous avez écrit des romans, Geronimo Amalodo, vous parliez de votre père. Oh, vous avez un autre talent, Guy Coffet, c'était magnifique ce roman, on l'a conseillé d'ailleurs d'ailleurs plein de fois dans cette émission.
Bah oui, je vous
c'est
remercie.
Sorti en poche, il faut le lire d'ailleurs. La poésie, c'est plus commode pour s'adresser aux disparus? C'est plus commode que le roman? Parce qu'il y a la lettre à votre père dans ce livre encore.
Bah, j'ai tenté de le faire par le roman d'abord. Le poème était écrit, vous l'avez vu, c'est un poème que j'ai repris, qui était en préface. C'est difficile, voilà.
Mais la toujours poésie, ému hein, quand vous parlez
poésie,
de votre père.
Oui. Oui, parce qu'il grandit à mesure qu'il est mort. Il meurt tous les jours un peu plus, mais il grandit tous les jours. Il revit en moi, voilà.
Et il y a beaucoup de pudeur dans
et
ce
de
poème.
De toute façon, quand on écrit des poèmes, on les écrit parce qu'il y a une émotion au départ.
Ouais.
Qui se cristallise parfois 15 ans plus tard. Mais j'écrirai vraiment sur mon père les plus beaux poèmes d'amour quand j'aurai rejoint, je crois.
Il y a de la pudeur, d'ailleurs, plus que dans le roman. Vous pensez qu'aujourd'hui, ce monde-là, il a besoin d'une forme de pudeur, de la pudeur de la poésie?
Oui. Je crois à la jeunesse qui en a un peu, qui en a retrouvé un peu, cette pudeur.
La jeunesse?
Oui, je crois à une certaine jeunesse
vous
que
croyez,
je rencontre, oui. Des jeunes dont on ne devrait pas les voir habillés ou qui peuvent être tendres, attendrissants, qu'ils ont une douceur. Ils l'ont en eux. Mmh. Il faut leur permettre de l'exprimer.
Il y a ce petit poème aussi dans votre livre qui contribue à décrypter le monde, Guy Goffet. Tu gagnes le soleil à la course, tu bats l'heure à ta montre. Contre qui? Contre quoi le jour t'attend?
Oui, c'est vrai.
On va trop vite.
Ah ben, on va beaucoup trop vite.
Tout le temps.
Tout. Et dans l'édition, c'est pareil, mais j'imagine que c'est pareil pour les autres. On prépare déjà ce qui est... On a déjà fini le programme de janvier, février, etc. Ouais, ouais. Il y en a d'autres, d'ailleurs, qui sont plus rapides encore que nous. Je trouve que c'est une folie. En 10 ans, ça... Mais où va-t-on? Ben, en général, quand on va trop vite, vous savez ce qui arrive.
Qu'est-ce qui arrive?
La catastrophe.
Quel genre?
Oh, ben, on perd son âme, là, en tout cas. Ce que j'appelle, comme tous les poètes, mon âme. On perd bien des choses.
On devient superficiel.
On est déjà beaucoup dans l'artifice.
On va voir du côté de nos libraires comment s'est passée leur lecture en multiplex à travers la francophonie. Suisse, Belgique ou France? Quel est votre premier choix, Guy?
Écoutez, je vais être... Belge.
Oui, allons-y. Annick Dor, à Bruxelles.
C'est bien, c'est bien. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait de très, très beaux textes. Pour certains, j'ai vraiment lâché les amarres, je me suis laissé embarquer. Et je trouve que c'est par essence la magie de la poésie. Finalement, quand on en lit, le monde extérieur n'existe plus et seul importe les mots. Et c'est vraiment ce qui se passe avec ce recueil. J'ai ceci dit vraiment un petit faible pour le dernier poème dédicacé à Anne Wasilewska, qui porte sur la ville donc, de Danzig ou de Gdansk, donc, et son fameux couloir. Alors, je trouvais que c'est un texte ancré vraiment dans l'histoire. Et je trouve qu'il mêle magnifiquement l'intime et à des références aussi géopolitiques.
Très bien. Le moins facile, Grégoire Courtois, en France. Êtes-vous d'accord?
Ouais, moi je suis tout à fait d'accord avec Annick. Ah. Et puis c'est vrai que j'ai retrouvé la patte de Guy Goffet. Hein. Je lis sa poésie depuis un certain temps. Et effectivement, c'est exactement ce que vous avez dit. C'est ce mélange de l'intime, mais aussi de l'ouverture sur les influences, les inspirations, les hommages, la géopolitique, tout ça. Vous avez parlé de la lettre au père qui est absolument touchante. Moi, Géronimo, j'avais adoré ce roman. Et puis, il y a des vers vraiment qui vous restent en tête. Et c'est pas si fréquent chez les poètes, malgré tout.
Dominique Bressou, en Suisse.
Moi, je dois avouer que je lis peu de poésie, mais votre recueil, Monsieur Goffet, m'a vraiment bluffé, si j'ose dire. C'est une initiation parfaite à cet art. Vos poèmes, ils sont mélancoliques sans être jamais tristes, et d'une transparence et d'une beauté impressionnantes. Voilà, c'est les vers consacrés à Paris qui m'ont littéralement saisi. Je m'y croyais mieux qu'en y étant vraiment physiquement, tant les images qui se forment sont précises et elles touchent profondément. Moi, je conserverai précieusement quelques vers en mémoire pour les murmurer lors de moments précieux.
Voilà.
Je vous remercie.
Bon, il est ému, Guy Goffet, du coup.
Mais oui. Voilà.
Bon, et puis, il y a la plage, la mer, l'eau, hein, vous inspire beaucoup. Il y a un parfum d'été dans ce livre.
Oui, un parfum d'Andalousie. D'Andalousie, je parle de Frigiliana, oui, là, oui. Etc. Frigiliana.
Oui.
Mais il y a un parfum de bonheur en même temps. Pensons toujours que nous sommes fragiles. Il y a un poème devant la mer, justement, ces types qui sont bâtis comme des Hercules.
On est comme nous, quoi, là, voilà, dorés par le soleil, musclés.
Et tout à coup, devant, il suffit que de peu de choses pour qu'ils redeviennent finalement des enfants.
Ouais, c'est ça. Ouais, on est tous des enfants à la plage en même temps. Ouais. Ouais. On va jouer un peu, Guy Goffet.
Oui, si vous voulez.
Apollinaire, souvent cité. Enfin, en tout cas, il y a un hommage à Apollinaire. Et puis, vous lui rendez hommage en revisitant son bestiaire. Il y a le chat, par exemple. Ce que je vous propose, c'est que je vais lire, moi, la version d'Apollinaire, oui, que j'ai évidemment retrouvée très facilement. Et ensuite, vous allez enchaîner avec votre version à vous du chat. Vous voulez bien?
D'accord.
Tenez, je tends votre livre. Voilà, il est à la page. Apollinaire, le chat. Je souhaite dans ma maison une femme ayant sa raison. Un chat passant parmi les livres, des amis en toute saison, sans lesquels je ne peux pas vivre.
Je souhaite dans ma chanson une femme comme mes chansons. Un chat qui rit quand je suis ivre. Et des amis à l'unisson, fêtant alcool, parmi les livres. Je dois dire que j'aurais préféré que vous preniez le dromadaire.
Ah oui, bah j'ai hésité alors.
Parce que celui-ci, je pense que vraiment, oui, le chat d'Apollinaire est imbattable. Oui. Simplement ici, il s'agissait de fêter alcool.
Oui. Oui, c'est
et
ça.
J'ai repris ce texte.
Avec les amis.
Qui célébrait alcool. Voilà.
Et qui célèbre l'amitié aussi.
Et qui célèbre l'amitié, les
livres.
Bien sûr, les livres.
Ah. Bon, voilà, ça collait quand même.
Mais ça collait très bien, bien
bah,
sûr.
En même temps, vous êtes face à Apollinaire, vous prenez des risques.
Ah
hein.
Oh, bah oui.
Ah bah oui.
Face à Jacob aussi, et face à tous les autres.
Alors vous jouez avec le lecteur aussi, autre petite expérience, vous l'incitez, comme on vient de le faire, à comparer, à relire certains poètes, et puis parfois, vous le laissez rêver, avec une devinette autour d'un vers. On va jouer tous ensemble, à Clitager, vous pouvez, Marc Duguin, Christophe Labbé. Vous dites dans « Chanson de la vie qui passe », on dit la vie passée comme une, choisissez vite et les yeux fermés. Vous écrivez ça.
Oui.
Donc la vie passe comme une...
Météorite.
Parfait. À Clitager ?
La vie passe comme... passe trop vite.
Christophe Labbé ?
Une poussière d'étoiles.
Voilà. Continuez, Guy Goffet.
Comme une cycliste aux seins étonnés.
Exactement.
C'est là qu'on voit quand même les poètes.
Oui, c'est ouais, ce qui est écrit dans son poème.
Là, il y a
moi,
du
je
lourd.
Suis pas très original, j'ai répété mon poème. Ouais,
c'est ça. Qu'est-ce qu'il fait, parce qu'il y a eu le temps, lui, pour
penser. Ah, voilà, d'accord. Voilà.
Ah non, mais ça, c'est des jeux, là. On n'est pas à égalité, là.
On n'est pas égalité à froid.
On n'est pas égalité.
Et Christophe Labbé aussi a eu le temps de réfléchir. Qu'est-ce qui fait passer la vie si vite pour vous? À quoi ça tient, Guy Goffet?
À quoi ça tient? Vous voyez, je ne peux pas répondre, moi. Qu'est-ce qui fait passer la vie si vite? C'est justement le fait qu'on ne lise pas de poèmes, qu'on ne prenne pas le temps. Le temps. Prendre le temps. On dit toujours il faut prendre le temps, mais nous ne le prenons pas.
On pense toujours au lendemain ou au surlendemain.
Non, non, moi je vis le présent. Je suis comme les enfants, donc j'ai une sorte de maladie d'Alzheimer, moi, tout le temps, ou d'Eisenhower, comme je dis, parce que j'oublie exactement ce qui s'est passé hier. Tout ça cristallise à l'intérieur de moi, mais j'ai oublié. On peut me reprocher ce qu'on veut, je suis dans un nouveau jour. Chaque matin, je me lève et c'est un nouveau jour. Donc, je ne pense plus à hier. C'est fini, réellement, dans ma vie. Et le temps ne passe pas, puisque je viens de naître ce matin. Je suis comme un enfant.
Ben,
je ne veux pas devenir
enfant.
Adulte. D'ailleurs.
Restez comme ça, Guy Goffet.
J'aurais peur.
Ouais. Voilà, prenez le temps. Il va être question du temps qui passe avec la révolution numérique dans un instant. Merci beaucoup, Guy Goffet. Petit
c'est
rien.
Merci.
Bonjour absolus est publié aux éditions Gallimard dans la collection Blanche. Lisez ses poésies. Elles vous racontent des petites histoires et elles vous feront réfléchir aussi sur votre vie. Merci, Guy. Vous restez bien sûr avec nous. À suivre dans la librairie une critique très acide de la révolution numérique. Notre vie privée est en danger. Elle va disparaître à court terme. Avant cela, on écoute le tube francophone de la semaine pioché dans nos archives. Voici les têtes raides. Merci à vous d'écouter la librairie francophone à travers le monde. Et c'est dimanche, ou presque.
C'est indécent de se balader, la bouille au vent, la bouille au vent. Ou de flirter avec les ronces, c'est méprisant, c'est agaçant. De voir glisser un doux baiser sur le ciment. Si mes pensées sont vérité, je remonterai d'où je descends. Connaître ou ne rien savoir, t'avais choisi. Pardon. Et naître ou ne rien avoir, t'avais choisi ton paradis. Paradis. C'est une vie qui est sans souci, du lundi jusqu'au vendredi. Mais le samedi, je dis non merci, car demain, c'est dimanche. We'll be right back. conscient de se pavaner, la fleur aux dents, ou fricoter avec les songes, c'est impudent, c'est énervant de voir bugger nos destinées sur les écrans. S'il est risqué de dire attends, j'attendrai plus, j'en descendrai d'où je m'entends. Connaître ou ne rien savoir, t'avais choisi. Parler et naître ou ne rien avoir, t'avais choisi ton paradis. Parler, adieu. C'est une vie qui est sans souci, du lundi jusqu'au vendredi. Mais le samedi, je dis non merci, car demain, c'est dimanche. Si mes pensées sont vérité, je remonterai d'où je descends. S'il est risqué de dire attends, j'attendrai plus, je redescendrai d'où je m'entends.
Les têtes raides, c'est dimanche sur votre radio francophone.
La librairie francophone, une émission coproduite par les radios francophones publiques.
RTS la première.
RTBF la première.
Ici Radio-Canada première.
France Inter.
Et toutes les semaines, nous vous emmenons dans la plus grande librairie du monde, un lieu virtuel avec des libraires. On commence par les meilleures ventes et ça se passe du côté de la Suisse, dans les rayons de Dominique Bressoux.
Oui, alors moi je vais vous parler de « Partie voir les bêtes » de Anne-Sophie Subilia aux éditions Zoé. L'auteur mérite bien le statut de francophone. Elle est belgo-suisse d'origine et elle a vécu plusieurs mois à Montréal.
Oui, oui.
Elle nous offre dans ce roman une sorte de balade avec un homme à cheval sur deux univers. Le premier qu'il ne veut pas quitter, la campagne de son enfance, et l'autre dont il fait déjà partie, la ville qui s'étend et absorbe ce qui reste de nature. Et nous sommes tout au long de cette lecture témoins de l'interaction permanente entre l'intimité de cet homme et son environnement, et sa difficulté à intégrer les changements inéluctables.
Très bien, ça a l'air joyeux, hein, votre ton, Dominique, ce livre.
Joyeux, non, mais je vous jure que c'est intéressant.
J'espère. Partie voir les bêtes d'Anne-Sophie Subilia aux éditions Zoé. Dans le rayon des essais, on se faufile dans la bonne ambiance belge, Annick Dor.
Oui, voilà, donc moi l'essai dont il est question s'intitule « Économie, entreprendre et produire autrement ». C'est le très inspirant livre d'Emmanuel Turion dont le dynamisme et la conviction ont marqué les esprits dans le film « Demain ». Rappelez-vous cet entrepreneur là du nord de la France qui est parvenu à créer une entreprise d'enveloppe qui est autonome en eau, en chauffage, elle recycle, elle n'utilise plus de produits chimiques ni de polluants. Bref, le leitmotiv d'Emmanuel Druon, c'est que contrairement aux idées reçues, eh bien, il est plus économique de produire de façon écologique. Donc pour lui, on a épuisé les ressources, on a épuisé les gens, et il faut maintenant produire sans détruire. Et le livre, eh bien, témoigne que c'est possible.
Et c'est chez Actes Sud, Écolonomie. Merci beaucoup, Annick.
La librairie francophone. Emmanuel Kérad.
Marc Duguin et Christophe Labbé sont dans la librairie francophone pour L'homme nu, la dictature invisible du numérique. C'est un constat choc, une affirmation à laquelle vous semblez croire à 100% tous les deux. Notre vie privée va disparaître. Comment ça, elle va disparaître, Christophe Labbé?
C'est pas qu'elle va disparaître, elle a disparu.
C'est
déjà
fait.
C'est déjà fait. On se promène avec un espion dans la poche. Notre smartphone, et on s'est interrogé, savoir toutes ces informations capturées et partout, on en fait quoi?
Alors la vie privée c'est quoi aujourd'hui? C'est la vie de couple, c'est ça? Vous expliquez la préférence sexuelle réelle, j'aime bien le mot, la précision réelle, l'éducation des enfants, les soirées entre amis, tout cela on ne va plus pouvoir le réserver à un cercle intime, Marc Duguin?
Ça dépend du niveau de connexion qu'on a, mais si on est connecté à un smartphone et qu'en plus on a un ordinateur qu'on est branché sur Google ou Yahoo, ce qu'on veut, et qu'on envoie des mails, tous ces gens-là qui en fait nous observent à travers nos réflexes numériques sont capables de savoir absolument tout sur nous et évidemment de nos idées politiques à un moment donné. Et ça, c'est aussi important parce que ça veut dire qu'on est... Moi, je me souviens quand j'étais jeune, on disait « Ouais, un tel, il est fiché, on est fiché. » Moi, j'avais fait une manif, je m'étais retrouvé fiché. Mais fiché à l'époque, c'était rien. Aujourd'hui, on est tous fichés parce que la capacité du système à recenser les données sur chaque individu est colossale en termes à la fois d'appréhension et de traitement. Et ça fait que aujourd'hui, la vie privée, ce que voulait d'ailleurs le patron de Google, est devenu une anomalie.
C'est ça, vous dites ça. Ouais. C'est voilà. Devenu une anomalie.
Et, alors, et il faut en avoir conscience parce que il faut pas sur ce livre. Évidemment, c'est un livre à charge contre le numérique. Ouais. Mais on connaît tous les bons aspects du numérique. On les connaît en termes de communication, en termes de
vous les
de
évoquez connexion. Pas beaucoup. Hein.
Bon, on les évoque pas beaucoup pour une raison simple. Enfin, c'est que l'industrie du numérique fait assez pour sa promotion.
Mais, vous pourriez être un peu impartial. Vous le n'êtes pas du tout.
Non, mais c'est pas la question. Nous, si vous voulez, c'est comme sur le pétrole. On vous dit le pétrole, c'est formidable. C'est formidable pour se déplacer. Mais il y a un risque, et ce risque, on est en face de ce risque aujourd'hui.
Donc on sait tout sur nous, avec ce petit ordinateur-là, je fais tomber mes fiches, sur la table, là, avec cet ordinateur portable, on sait tout sur moi.
Oui, on sait tout, et surtout on peut prédire, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, derrière toutes ces données qui sont récoltées, ces données sont moulinées, et on utilise des algorithmes pour essayer d'en extraire un soi-disant sens caché, et à partir duquel on nous met dans des cases et on nous réduit à des consommateurs compulsifs derrière l'écran. Et la dimension de citoyen, d'ailleurs, disparaît, puisqu'on est complètement pris en main. La question du livre, c'est aussi cette servitude volontaire, finalement. Parce qu'on a tous été fascinés par ces outils, à un moment donné. Il y a un pouvoir hypnotique dans ces outils. Et simplement, ce qu'on voulait pointer, c'est qu'il y a un prix à payer. Les géants du numérique ne communiquent pas dessus. Mais ce prix à payer, c'est notre intimité, c'est notre liberté, c'est plein de choses.
Alors vous attaquez aussi les liseuses électroniques, les e-books qui permettent de lire des livres sur tablette, sur ordinateur, sur téléphone. Une hérésie absolue, Marc Duguin, je pense que vous allez être d'accord avec moi. On rappelle que rien ne vaut un livre, qu'il faut défendre l'objet livre à tout prix, le livre à traverser, comme ça toutes les générations. Il ne faut pas se laisser manipuler par les entreprises numériques. C'est le premier acte de résistance culturelle, ça, de défendre le livre. Il faut, je le dis encore une fois, défendre le livre papier à tout prix et ne pas lire sur tablette. Voilà, nous ici on y croit profondément. Avec le numérique, on est, vous dites, aussi sous contrôle, même quand on lit, parce qu'on décrypte la façon dont nous lisons.
Alors, la tablette, moi j'ai jamais lu sur tablette, donc je ne peux pas en parler, parce que c'est tellement impensable pour moi que... mais il y a une bonne nouvelle, c'est qu'en fait, il n'y a pas tant de gens que ça qui s'y mettent.
Ça baisse.
Il y a eu un effet au départ, oui. Et puis là, il y a un côté, parce qu'évidemment, c'est extrêmement fatigant. Mais le pire, il y a ça, mais c'est surtout que on se prépare une connaissance à travers les données des goûts des lecteurs, des soi-disant goûts des lecteurs, qui vont être évidemment amassés au niveau de population, de sorte que dans quelques années, on sera capable de prédire quel livre va marcher et quel livre va pas marcher. Donc, on sera peut-être... Je pense que chez Gallimard, c'est pas près d'arriver, mais il y aura d'autres maisons d'édition qui assez rapidement diront, ben là, on a un sujet, puis ça serait pas mal à la page 30 de venir, on a déjà ça avec les séries. C'est-à-dire qu'avec les séries, les grands diffuseurs comme Netflix sont déjà capables de prédire la réaction du téléspectateur à la série. Donc, on fait une série sur mesure.
Oui.
Donc
à quel moment faut-il rebondir, etc.
Donc, est-ce qu'on fera des livres qui seront pas rentables, qu'on pourra pas prédire? Ben, il restera la poésie, il restera quelques romans dont on dira bon, on les garde parce que c'est un peu, voilà, c'est un petit
la caution morale,
c'est la charité, on fait de la charité. Bon, alors, on exagère peut-être, mais cette tendance-là,
elle
est forte et elle est lourde, puisque vous voyez bien si vous commandez un livre sur Amazon, tout de suite, ils vous proposent d'autres livres qui correspondent à vos goûts. Donc c'est déjà une intrusion.
C'est valable avec tout ce qu'on achète, ça.
Absolument.
Est-ce qu'il est disponible sur les plateformes numériques, ce livre-là, en version numérique, votre livre-là, L'homme nu que j'ai dans la main en papier?
J'en sais rien. Ça,
je crois qu'il est disponible en version numérique.
Bah moi, je vais vous le dire, je l'ai trouvé sur la bibliothèque numérique d'Apple au prix de 12,99€.
Ça veut dire qu'ils ne sont pas rancuniers.
Ça veut dire aussi que vous ne vous y êtes pas opposé. Pourquoi vous n'êtes pas allé jusqu'au bout en disant ce livre-là, on ne le veut pas en numérique?
Non, on s'est pas opposé parce qu'en fait on n'a pas regardé les contrats de ce point de vue-là et on s'y est pas opposé, c'est qu'on s'en est pas préoccupé mea culpa.
Bon, deux libraires ont lu votre livre, Christophe Labbé, Marc Duguin, Manon Trépanier au Canada.
Emmanuel, moi, ce livre-là m'a rendu complètement paranoïaque, totalement angoissée. Je voyais ma dépendance à ma petite tablette là, comme une forme de gourmandise de luxe. Mais maintenant, je considère cette dépendance comme une maladie potentiellement radioactive. En même temps, j'ai rarement lu un plaidoyer en faveur du livre papier aussi convaincant. Et
Maintenant, ma question, c'est, on fait quoi? Comment parer cette menace sans obligatoirement se débrancher? Parce que se débrancher, c'est impossible.
On fait quoi? Oui, tiens. Christophe Labbé, je vous sens motivé.
On fait quoi? Notre propos, c'est d'informer sur l'envers du décor. Et à partir de là, c'est à chacun de jouer le rôle du grain de sable dans le système, d'utiliser ses outils ou de ne pas les utiliser. Mais
avec parcimonie, quoi,
avec
c'est ça,
parcimonie,
vous dites,
ouais. Et en sachant ce qu'il y a derrière et l'enjeu, en connaissant l'enjeu.
Marc Duguin.
C'est extrêmement compliqué parce qu'on a fait l'expérience avec Christophe, parce qu'on travaille en dehors de ce livre sur des sujets un peu sensibles. Et c'est vrai qu'on est obligé de prendre des précautions qui nous prennent pratiquement la moitié du temps de travail. Se dire là, il ne faut absolument pas qu'on ait de téléphone dans la salle, parce qu'à partir de notre iPhone, on peut nous entendre. Il ne faut pas communiquer avec des mails, il ne faut pas se parler au téléphone. Enfin, ça devient, quand on est vraiment sur des choses sensibles, on s'en rend compte. C'est-à-dire que le fait pour des journalistes, moi je ne suis pas journaliste, mais je suis très solidaire de mon coéquipier, le fait de savoir, parce qu'on a été sur écoute sur certaines affaires, et de voir surtout ce dont on n'a pas parlé, c'est cette fusion entre le monde d'Internet et le monde du renseignement, que nous on vit au quotidien en fait. Et c'est ça qui est le plus effrayant, et c'est vrai que c'est très difficile de s'en défaire.
Une question d'Aklitadjer et après la parole à Annie Dor.
Oui, je voulais vous poser une question, vous dites que nous sommes tous fichés en gros. Mais moi, je voudrais savoir si Google, Yahoo, Apple sont eux-mêmes fichés.
Par qui?
Bah justement, il faudrait
par
savoir.
Par eux-mêmes.
Parce qu'il doit y avoir un Big Brother au-dessus
par
d'eux.
Par échelon, c'est-à-dire les grandes oreilles américaines. C'est le grand système pour écouter le monde entier.
Parce qu'en fait, il se charge de la collecte de l'information. Collecte de l'information sur laquelle on n'a aucune prise, en plus. On n'a plus aucun droit de regard sur ces informations qui pourtant nous appartiennent.
Donc il n'y a personne au-dessus d'eux.
Il n'y a personne et ils font ce qu'ils veulent. Après, il y a une hybridation avec les services de renseignement, en particulier avec les services de renseignement américains. Il y a un échange, on est dans une sorte d'écosystème où
non,
chacun...
C'est ce que je voulais savoir.
c'est ça.
Parce que je...
Mais vous êtes inquiet, Akli, là, je vous sens inquiet. Rassurez-vous.
Non, parce qu'en fait, je vais toujours faire mes 8212 pas tous les matins. Donc,
Ah oui, parce que vous savez que vous faites 8812 pas parce que votre téléphone vous l'a dit. Oui, bravo. C'est un gros problème avec l'Itager, ça. Non, il en a parlé avant l'émission. Une grosse addiction. Annick, pour la Belgique, qu'en pensez-vous?
Mais moi, j'ai trouvé ça à la fois passionnant et totalement terrifiant, évidemment. Mais c'est vrai qu'on en a un tout petit peu parlé en début d'interview, mais j'étais quand même un petit peu surprise que le livre ne montre finalement donc aucun des côtés positifs du numérique, mais donc c'est à charge, ok, on a compris. Mais surtout, pas de solution finalement pour se préserver, et du coup c'est vrai qu'à la lecture on finit par se demander un peu si vous n'êtes pas quand même un peu parano, et parce que finalement personne ne nous oblige à nous entourer d'objets connectés, et je me demande si la prudence et le bon sens ne peuvent pas quand même aider dans une certaine mesure à nous protéger.
Marc Duguin, très vite.
Aujourd'hui on peut encore se protéger, mais plus tard on pourra pas. C'est-à-dire que si par exemple on vous dit que si vous acceptez d'avoir une puce sur vous qui communique des données concernant votre santé, donc la prévention éventuellement d'attaques cérébrales ou de problèmes cardiaques, et que vous refusez, vous pouvez refuser. Simplement, vous aurez une surprime d'assurance qui sera de 30, 40, 50%. Donc en fait, tout ce système n'est pas du tout contraignant, apparemment, mais va le devenir de plus en plus. Et c'est-à-dire que dès le moment où on refusera la connexion, on sera totalement marginalisé et il y aura des conséquences financières.
Alors pour illustrer ce que vous dites, Marc Duguin, vous commencez le livre en parlant des attentats du 11 septembre à New York qui ont fait basculer l'humanité dans l'ère de la surveillance totale. Et les attentats à Paris et Bruxelles, les récents attentats, ont accentué avec l'état d'urgence cette généralisation du contrôle. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on se sent en danger, quand on se sent attaqué, tout le monde est d'accord pour le contrôle et pour la numérisation finalement des données.
Mais en général, les gens sont d'accord pour échanger leur liberté contre de la sécurité.
Voilà.
Et évidemment, nos dirigeants l'ont bien compris. Sauf que là, on a échangé effectivement notre liberté, mais la sécurité, on l'a pas, puisque pour l'instant, au niveau où en sont les big data, on n'est pas capable d'empêcher systématiquement des actions terroristes. C'est intéressant après pour retrouver les coupables, mais c'est pas aujourd'hui efficient.
Ça n'empêche rien.
Pour empêcher une attaque terroriste.
Il y a toute une démonstration dans le livre qui montre que ça ne sert à rien.
Voilà. Et on est rentré dans la nasse suite aux attentats du 11 septembre, dans une nasse gigantesque, au prétexte d'éviter des attentats que réellement on n'a pas vraiment évités. Ou si on les a évités, c'est par rapport à tout un système qui existait déjà.
Très bien, merci beaucoup Marc Duguin. Merci, très attentif hein, Guy Goffet. Vous êtes à deux doigts de poser des questions, mais on est limité par
poètes,
le temps.
Les poètes, comme disait un poète belge qui s'appelle Achille Chavée, les poètes sont de vieux peaux rouges qui ne marcheront jamais dans une file indienne. Ce sont des marginaux. Moi, j'ai rien. J'ai pas de... Comment vous appelez ça, cet objet terrible? Smartphone. Smartphone, j'ai rien du tout. Je me sers pas d'ordinateur. J'en ai un chez Gallimard, mais je réponds tous les trois mois.
Au mail?
Oui. Ah donc oui. C'est trop tard. C'est daté.
C'est trop tard. Oui.
J'en ai encore de 2014 à terminer.
Vous êtes pire que nous.
Tous poètes. Tous poètes. Voilà la solution.
Tous poètes. L'homme nu, la dictature invisible du numérique est paru aux éditions Robert Laffont, coédité avec Plon. Et c'est donc de Marc Duguin et Christophe Labbé. Merci beaucoup. À lire en version papier surtout et à acheter chez un libraire indépendant. Et on va dans une librairie indépendante. On part dans le rayon des livres pour la jeunesse. Avec vous, Grégoire Courtois.
Ouais, je vais vous parler donc d'un petit roman pour les 8-10 ans, on va dire. C'est le premier jour des grandes vacances et Alex est tout content. Il va tomber dans la forêt sur une cabane où habite le mystérieux Sauvageon. C'est un ermite, un vagabond. Avec ce roman, vous allez partir dans une chasse au trésor incroyable avec sa bande de copains. On retrouve toute la magie de l'enfance, la petite cousine du copain qui est charmante et qui vient pour les grandes vacances. Et puis un petit peu de fantastique, tout ce qu'on vivait quand on était jeune en fait, ou n'importe quelle aventure. Au coin de la rue devenait une fabuleuse épopée. Ça s'appelle Le Trésor du lac des Trois Chats et c'est vraiment à conseiller à tous les enfants qui seront bientôt en vacances.
Bien sûr, et sans tablette finalement, on n'a pas besoin de tablette pour se créer des aventures.
Pas du tout.
Aux éditions Thierry Magnier, Les Trois Chats. Merci Grégoire. Miaou, Manon Trépanier. Les livres de poche pour vous.
Je vais vous parler de Je suis là de Christine Eddy, que vous vous souvenez probablement, Emmanuel, oui, avoir reçu à l'émission. C'est paru chez Alto dans la collection Coda et c'est l'histoire très poignante, là, je le rappelle, d'une jeune femme atteinte d'un syndrome du lock-in qui utilise son imagination pour s'élever au-dessus de sa condition. C'est vraiment un roman magnifique qui parle de résilience et d'entraide et qui est porté par une écriture qui est à la fois poétique et très aérienne. C'est une ode au courage, à l'amour et ça nous rappelle que la fiction, eh bien, ça peut nous aider en cas de détresse ou de douleur extrême à supporter le réel. Un livre fort beau, inoubliable, très touchant et que je vous recommande chaudement.
Je suis là. Elle fait de la poésie maintenant. Je suis là, Christine Eddy, chez Alto. La librairie francophone avec Guy Goffet, Marc Duguin, Christophe Labbé et Akli Tadjer. Avec la reine du tango, Akli Tadjer, vous nous faites danser avec vos personnages, danse de bal argentin, danse de l'improvisation aussi, mais surtout danse de la fusion entre les deux partenaires. Quel genre d'alchimie faut-il pour danser le tango ?
Bien, pour danser le tango, il faut trouver donc le bon partenaire. Le bon partenaire, c'est... pas très évident. Je veux dire, il faut une alchimie. Parce qu'il faut savoir que le tango, c'est 20% de savoir, de base, de pas, de choré, et 80% d'impro.
Ouais.
Si bien que si vous ne trouvez pas le bon partenaire, on dit que le tango, c'est une conversation sans parole. C'est-à-dire que tout passe par le regard. Et si rien ne passe, ben, votre couple tombe à l'eau.
Voilà, il va se passer beaucoup de choses entre vos personnages, on va le voir tout à l'heure. Avant le tango, on voyage avec la musique chaloupée créole de Leila Makkala dans la librairie francophone.
C'est pas surprise si je dis à ma chanté pour vous. Pour les mesures qui ont passé, pas quoi ma chanté fin payé. Nous pas mon la grande société, n'a pour les sujets croisant, dit maman, plutôt nous chanter sous l'espoir côtelier, pour nous pas décourager, car nous exister. Maman chérie, c'est où toute vie, détermination. J'ai tendre sa affection manquée, tout ça cause des situations. Garde l'anger, garde l'anger, c'est que nous tous des caprachés, maman. Contentez-moi de m'arriver, maman, pas gain, joue sacré. L'issue est à l'exister, la caille flairose par entrée. Pour équimer des vrais, chercher la vie pour me pas quitter souffrir. C'est pas un vie manqué, pareil si je pas, nous un peu arriver. Pour équimer des vrais, chercher la vie pour me pas quitter souffrir. C'est pas un vie manqué, pareil si je pas, nous un peu arriver. Maman, gageons la vie, fais-moi casouiller, fais-moi résiller. J'ai poigné, moi pas coupé, bien maman trimé la trimé. Que tant de chitan a parlé, depuis tant de pralés passé, maman, tout de suite, faut le gagner de l'eau longer. L'eau sa bon ange moi aller, même voler moi ta voler pour cap consoler. Son vieux madame qui gagne courait pour l'y résister. Après une caresse son tête cratée, l'y sourire m'en défédéraler. Petit petit, moi nous pas né, qui montagne pas qu'on déplace, maman. Tout le monde pas fait pour errer, monde pas fait pour trop presser. C'est parce que t'as observé qui fait guetter de charger. Où est que moi dévoué, chercher la vie pour pas qui tout souffrir. C'est pas un vie manqué, pareil si je pas, nous un peu arriver. Où est que moi dévoué, chercher la vie pour pas qui tout souffrir. C'est pas un vie manqué, pareil si je pas, nous un peu arriver.
L'américaine d'origine haïtienne, Leila Makkala, avec Man Man, sur ici Radio-Canada Première, RTBF la première de la RTS, et sur France Inter.
La librairie francophone, Emmanuel Kérad.
Akli Tadjer est dans la librairie pour La Reine du Tango, paru chez Jean-Claude Lattès. Alors Suzanne est professeure de tango, Akli. Elle souffre de solitude. Sa mère est morte dans un terrible et mystérieux drame. Un jour, elle croise un mauvais garçon, un certain Yann, écorché lui aussi, un petit délinquant. C'est un peu la métaphore de la grâce croisée avec le mauvais garçon, archétype lui-même du tanguero, ça, non ?
Ben c'est un peu toute l'histoire du tango. Bah quand oui. On connaît l'histoire du tango, c'est ces immigrés qui sont partis d'Italie, d'Espagne, d'Afrique, quoi, et qui sont allés peupler l'Argentine. Et c'était des petites guapes, hein, guapos, ça vient de là. C'était des petits voyous. Et j'ai voulu que son amoureux, son tanguero, son amoureux de cœur, soit un petit gars de la banlieue qu'on a rien à foutre du tango, qui pense que c'est une danse vraiment de tocard, de ringard, qui pour lui est plus dans le hip-hop, il n'est pas du tout dans des choses romantiques, et petit à petit elle va l'amener au tango et toute son histoire et toute sa passion.
Et c'est ça le paradoxe du tango, une danse des bas-fonds de Buenos Aires avec la sensualité suggestive.
Mais tout est dans la sensualité, tout est dans le regard, tout est dans la passion. D'ailleurs, elle dit que pour bien danser le tango, il faut qu'on voit l'étincelle, la flamme et le grand incendie dans le regard de l'autre. Et tout passe par là. Et moi, c'est ça qui m'a plu en abordant ce thème, parce que on se dit pourquoi je me suis lancé dans cette histoire d'abord. Parce que
alors d'abord, oui, vous êtes danseur de tango, tiens, j'allais vous demander ou
je danse le tango, mais je n'ai rien à voir avec les gens qui sont au sommet, quoi. Mais je suis obligé de danser un peu pour connaître un peu les sensations, mais c'était pas ça qui m'intéressait fondamentalement.
Vous avez trouvé le partenaire?
Le partenaire, oui. Enfin, j'ai trouvé une partenaire, oui. Mais bon, c'est des partenaires d'occasion, parce qu'au tango, en fait, il faut pas danser plus de trois fois avec la même partenaire.
Justement. Ah, d'accord.
justement pour pas avoir des réflexes et tout. On est tout le temps dans l'improvisation, tout le temps dans l'essence et tout le temps dans le tactile.
Bon, cette ambiance du roman, on va la vivre tout de suite. Nous vous avons demandé d'imaginer la BO de votre roman et vous avez choisi un standard du genre, la comparsita, interprétée par Roberto Alagna. C'est donc la BO, selon vous. Alors, ils mettent les bras au ciel, là, les deux, là. Guy Goffet et Marc Duguin, là, ils sont ravis. Donc, c'est la BO de La Reine du Tango, publiée chez La Thèse, selon Aclitager. Extrait.
Si supiera que aún dentro de mi alma conservo aquel cariño que tuve para ti. Quién sabe si supiera que nunca te he olvidado, volviendo a tu pasado, te acordarás de mí. Abandonó a su viejita, que quedó desamparada, y loco de pasión, ciego de amor, corrió tras de su amada, que era linda hechicera.
Ah, cette musique incroyable.
Bah, ça vous emporte, hein. Puis la comparsita, ça veut dire le carnaval, la fête, l'orchestre qui joue. Voilà. Quand j'entends ça, je vois tout ça. Si vous voulez, le tango, c'est une musique qui se voit. Voilà. À chaque fois que j'écoute, je vois. C'est pas que des notes, c'est un spectacle devant moi.
Et voilà. Ce n'est pas anodin, hein, de danser le tango. Il y a toujours une bonne raison pour vos personnages. Il y a toujours une bonne raison.
Bah, c'est surtout mes personnages, c'est surtout l'addition de deux solitudes. Parce que mon personnage donc féminin, qui s'appelle Suzanne, est prof de tango. Et elle est seule. Et le paradoxe de cette jeune femme, c'est qu'elle donne des cours à des couples qui sont en fusion, qui se caressent, qui se câlinent, qui se disent des mots doux. Et elle est toute seule. Et c'est à partir de là que je me suis dit, voilà... Ça, c'est un personnage fort. Qu'est-ce qui fait que cette jeune femme passe son temps à vivre dans une espèce de frustration ? En fait, parce qu'il lui manque le bon tanguero, et le bon feeling et le bel amour.
Voilà, on peut parler sur cette musique du tango. On peut aussi lire votre livre en écoutant cette musique. Ça colle parfaitement. Et on va même écouter nos libraires qui ont lu votre livre avec le Canada, la France ou la Suisse. Que choisissez-vous, Aclitager ?
Le Canada.
Le Canada. Manon Trépanier.
Eh ben, ça tombe bien parce que j'ai adoré la lecture de ce roman. D'abord parce que ce livre met en scène un très, très beau personnage de femme. Et ensuite parce que, bon, il nous fait découvrir un univers musical fascinant que moi, je connaissais pas trop. Et je mets au défi quiconque va lire ce livre de ne pas se ruer pour acheter des disques de tango. Et puis finalement, on boude pas notre plaisir parce que c'est une très belle histoire d'amour que moi, personnellement, j'ai trouvée très touchante.
Très bien. Grégoire Courtois, pour la France, avis un peu plus mitigé.
Oui, alors disons que moi je partais déjà avec un léger handicap, c'est que en fait je connais rien au tango, là ça c'est la première chose, et puis surtout ça m'attire pas vraiment pour tout vous dire, là quand j'écoute la musique que vous venez de passer, bon je suis pas très très attiré.
Oulala, vous allez avoir affaire à Marc Duguin, à Guy Goffet, allez-y.
Non voilà, par contre, tout
c'est le côté obscur de l'émission.
C'est-à-dire le fait de tout ce qui gravite autour, toutes les histoires, les intrigues de couple, les lieux de rencontre, tout l'univers du tango, ça effectivement, j'ai trouvé ça super intéressant dans le livre. Après, je dois dire que mon intérêt a eu ses limites parce que sur le long terme, j'ai trouvé comme tout ce qu'a adoré Manon, c'est-à-dire le côté sentimentalisme, moi j'ai pas du tout été emporté par ça. Et ça, c'est vraiment une question de goût. Hein.
Ouais, c'est une question de goût.
Ouais, c'est une question de goût. Bon, Dominique Bressoux en Suisse, sauvez-nous. Sauver Aclitager.
Moi, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé ce roman. Je l'ai lu d'une traite, mais au risque de perdre le souffle. Le personnage de Suzanne, qui est fragile, qui est anxieuse, pleine de contradictions, il est captivant. Et en fait, le va-et-vient entre son anxiété et son exutoire, qui est le tango, ça a la force d'un pas de tango et on vous laisse vraiment mener la danse. Moi, c'est pour ça que j'ai fini votre livre, Monsieur Tadger, Le souffle court.
Bon, eh bien, voilà. J'ai le souffle coupé, moi.
Le tango, c'est une histoire de transmission, vous le démontrez comme ça tout au long du livre. Il y a plein de personnages, notamment un certain Diego, qui a eu une importance fondamentale pour Suzanne. Il l'a aidée à s'en sortir quand elle a perdu sa maman. Et puis, de ce côté-là, il est là aussi pour faire passer le tango, hein, pour lui transmettre quelque chose. Vous qui êtes un auteur franco-algérien à Glitager, est-ce que vous avez retrouvé dans le tango cette intensité, cette transmission aussi de la danse du ventre orientale? Parce que vous en parlez aussi de la danse du ventre à un moment.
Oui, j'ai retrouvé, c'est des choses de l'ordre de l'inconscient. Je me dis pas, il y a de l'oriental. Mais je me dis que ce qui m'a beaucoup touché, c'est surtout une danse et un monde qui raconte l'exil et le déracinement. Mmh. Et là, pour le coup, ça me touche plus que la danse du ventre, voyez-vous. C'est ces gens qui se sont déplacés pour d'autres aventures et pas avec des fortunes diverses, et emmenant avec eux leur musique, qui est leur mémoire et qui est leur histoire. Et ça, ça me touche beaucoup parce que ça me renvoie d'une certaine façon à l'histoire de mes aînés, ouais. Quoi.
Et puis c'est une communion avec l'autre aussi. C'est dans votre histoire, en tout cas, l'opportunité d'une vie épanouie. Ça se construit à deux, ce rêve-là.
Ça se construit à deux, et puis on est dans de l'ordre des choses qui sont de la transmission. Moi, j'ai gardé beaucoup de choses de mes parents qui étaient immigrés, et puis j'essaye de les transmettre à ma façon à mes enfants. Alors évidemment, à chaque fois, c'est un peu déformé à chaque fois. Je ne sais pas ce qu'il en restera dans deux, trois générations. Peut-être qu'on sera carrément dans le folklore, mais c'est pas grave.
Avec le croisement, c'est ça?
Voilà, avec le croisement, avec les nuances, avec tout ça. Et puis je trouve que c'est pas mal que finalement, une vraie histoire devienne du roman. Voyez-vous ?
Qu'une vraie histoire devienne du roman.
Voilà.
C'est ce qui se passe là.
C'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe dans La Reine du Tango. Ce sont des personnages qui sont un peu déplacés par le temps, par l'histoire, et qui finissent par aller dans un même but, une belle histoire et un même rêve.
Et des personnages que vous avez croisés alors ?
J'ai croisé Suzanne, la prof de tango.
Ouais, voilà. Qui devient roman.
Parce que j'aurais pas pu l'écrire. C'est en rencontrant cette prof de tango qui était seule. Parce que je lui ai demandé, mais voilà, votre compagnon doit avoir de la chance quand même. Elle me dit, mais je suis seule. Et puis je la voyais avec ces gens qui s'embrassaient autour d'elle. Je me suis dit, mais ça doit être des télescopages en permanence le soir quand elle va donner son cours. Et puis après, bon.
Et vous avez dansé le tango avec elle ?
Deux fois.
Et voilà.
Voilà.
Ça part de là. Voilà. Bon, il y avait fusion ? Ça marchait.
Il y avait fusion, il y avait communion,
il y avait tout.
Oulala. Voilà, bon, mais on va s'arrêter à la fin du cours.
Merci beaucoup, Glitager.
C'est moi qui vous remercie.
Merci d'être venu dans la librairie francophone. La Reine du Tango est parue aux éditions Jean-Claude Lattès. C'est l'un des romans de l'été que nous vous conseillons. Un livre qui vient d'obtenir le prix Nice Baie des Anges au Festival du Livre de Nice qui se tient en ce moment, ce week-end, sur la Côte d'Azur. Merci, Akli. Merci à tous les libraires qui ont participé à cette émission aujourd'hui.
La librairie francophone. Emmanuel Guérade.
Avant de conclure, coup de pouce à une découverte musicale francophone. Voici l'artiste français Gilles Is Lucky avec À l'envers.
À l'envers, la tête en bas. Je passe l'hiver.
She Is Lucky avec À l'envers, que vous pouvez retrouver en intégralité sur Internet. Et c'est la fin de cette édition. Je vous retrouve sur Facebook et Twitter pour communiquer avec vous. À la réalisation, Serge Gandon avec Alice Berger, Thierry Dupin à la prog musicale. À la rédaction, Jean-Philippe Véret avec Christophe Magère et Elisa Mar en France. Martine Béguin-Felet avec Annick Chouin en Suisse. René Mikils avec Valérie Lepute en Belgique. Sylvie Julien avec Jacqueline Castonguet au Canada. La semaine prochaine, Anne Goscinny dans les rues de Nice et Didier Van Kovelaert entre autres. Bonne semaine à vous. Salut.